Décryptage. Romain Ozoui.
Bonsoir à tous. Demain, cela fera 5 ans. Le 13 novembre 2015, la France était touchée par les pires attentats de son histoire. 130 morts, plus de 350 blessés et des attaques signées du groupe État islamique. À l'époque, l'organisation djihadiste était très puissante en Syrie et en Irak. Elle avait proclamé son fameux califat dans les deux pays et en son nom, eh bien, les attentats se multipliaient en Europe. Aujourd'hui, la donne a évolué. Le groupe État islamique a été dépossédé de ses territoires. Son chef, Abou Bakr al-Baghdadi, est mort l'an dernier en Syrie et le pouvoir de nuisance de l'EI a été réduit au fil des ans. La preuve, les récentes attaques perpétrées en France, à Conflans-Sainte-Honorine ou à Nice, n'ont pas été revendiquées par le groupe État islamique. Mais il y a 10 jours, l'organisation a refait parler d'elle en Europe lors d'attentats perpétrés en plein cœur de Vienne, la capitale autrichienne, des attentats qui ont fait 4 morts. Que s'est-il passé pendant ces années où l'EI a semblé perdre de sa puissance? Est-ce que l'organisation s'est reconstruite? Quelle est aujourd'hui la stratégie du groupe État islamique? C'est notre décryptage pendant 20 minutes. Et notre invité est Jean-Pierre Filiu. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur des universités à Sciences Po Paris, spécialiste du djihadisme. D'abord, est-ce qu'on peut évaluer ce qu'est aujourd'hui le groupe État islamique, justement, par rapport à ce qu'il a pu être du temps de sa grande puissance, dira-t-on? Qu'est-ce qu'il représente? Parce que certains observateurs n'hésitent pas à dire qu'aujourd'hui, il est réduit à néant. Est-ce que vous êtes d'accord?
Absolument pas. D'ailleurs, tous les observateurs sérieux de la menace djihadiste avaient mis en garde sur des bulletins de victoire un peu trop anticipés. Et ce qu'on constate, c'est que la reconstitution des réseaux depuis la perte du bastion syro-irakien l'an passé et l'élimination de Baghdadi est beaucoup plus rapide que les pires pronostics pouvaient l'évaluer. Et ça, c'est une menace inquiétante avec donc un nouveau chef qui n'est pas arabe, qui est turkmène, hein, qui s'appelle Seyd El Maula, qui a un nom arabe fantoche, hein, Abou Ibrahim al-Qureishi, qui est en fait Abou Omar al-Turkmani, qui est un homme qui avait déjà sévi, notamment contre les Yézidis, dans la région de Tel Afar, au nord de l'Irak, dont il est originaire, et qui, apparemment, c'était comme la direction de Daesh, l'appellation arabe de l'État islamique, s'était préparé à cette nouvelle phase. Et donc, dans cette nouvelle phase, eh bien, leur réseau progresse de nouveau de manière très inquiétante.
Mais qu'est-ce qui vous fait dire que, justement, cette reconstruction du groupe État islamique le rend aujourd'hui plus fort que ce qu'il a pu être dans les années 2015-2016, quand justement il y avait ce califat en Syrie et en Irak?
Non. On vous avait dit, est-ce que la menace était anéantie?
Donc, vous dites que la reconstruction a été plus forte, qu'aujourd'hui, finalement, il est plus fort reconstruit que quand le groupe État islamique menait les attaques qu'on a connues en Europe?
Bon, ben excusez-moi, j'ai quand même été très clair. J'ai dit que la reconstruction a été beaucoup plus rapide que les pires pronostics pouvaient l'envisager. Voilà, c'est tout. Ça veut dire que quand on en avait soi-disant terminé avec l'État islamique, on n'en avait pas terminé et qu'on savait que les réseaux se reconstitueraient et qu'ils se reconstituent beaucoup plus rapidement. Mmh. C'est ce que j'ai dit et je n'ai rien dit d'autre. Il est évident que, en comparaison de la période 2015-2016 que vous évoquez, où on avait une assise territoriale de la superficie de la Jordanie au milieu du Moyen-Orient, avec des milliers de volontaires venus du monde entier et des dizaines de milliers de combattants sur place, on n'a plus du tout cette infrastructure. Mais l'idée erronée que la perte de cette base territoriale allait signifier la fin de Daesh et de ce terrorisme djihadiste, eh bien aujourd'hui, elle est prouvée totalement fausse.
Est-ce qu'on sait comment se traduit cette reconstruction que vous évoquez? Alors, vous avez parlé d'un nouveau chef déjà, mais quels sont les autres éléments qui évoquent cette reconstruction, qui la justifient?
Ben déjà, comme vous l'avez dit, l'État islamique, donc Daesh en arabe, n'a pas osé revendiquer des attentats de manière opportuniste récemment en France. Il l'aurait fait s'il avait été affaibli. On a eu des revendications tout à fait mensongères. Ils étaient allés même jusqu'à revendiquer la fusillade sanglante à Las Vegas, dans un casino. Là, ils se permettent de manière beaucoup plus ciblés de ne revendiquer que des opérations dont ils assument pleinement la responsabilité. Et la dernière, c'est cette attaque dans le cimetière non musulman de Jeddah, hein, hier, pour la cérémonie du 11 novembre, où il y a eu au moins 2 blessés, ce qui leur permet de dire qu'ils sont capables de frapper au cœur de l'Arabie saoudite des cibles occidentales, théoriquement sous haute protection des services saoudiens. Et puis, par ailleurs, il y a une extension géographique qui est très inquiétante de l'ensemble des filiales et qui, effectivement, on voit en Afghanistan, bien sûr, en Asie du Sud-Est, mais sur l'ensemble du continent africain, jusqu'en Tanzanie, en RDC, dans des pays qui n'étaient pas du tout touchés jusque-là par la menace djihadiste, des attentats qui sont maintenant revendiqués et authentifiés par des branches locales.
Mais les bases du groupe État islamique sont toujours en Syrie, en Irak. C'est là que les attentats sont fomentés, que l'organisation se structure. Aujourd'hui, ça représente quoi justement le groupe État islamique sur son terrain? On parle de 10 000 combattants en Syrie, en Irak. On parle de ressources financières autour de 85 millions d'euros. Qu'est-ce que ces chiffres veulent dire?
Ces chiffres ne veulent rien dire, vu que le nombre de combattants fluctue en fonction des sympathisants dans le cadre qui est celui qu'on connaît bien, d'une guérilla de basse intensité. Ce qu'on voit, c'est qu'ils sont capables de frapper jusqu'aux portes de la capitale irakienne, où ils ont fait récemment une dizaine de morts dans une embuscade assez sanglante, et qu'ils ont infligé en bordure du désert de Palmyre des dizaines de victimes aux forces gouvernementales, tout en tuant un général russe dans un attentat dans la vallée de l'Euphrate. Donc leur capacité de combat sur place en Syrie et en Irak, même s'ils n'ont plus de territoire et qu'ils sont réduits au stade d'une guérilla, elle est importante. Mais il est évident qu'ils ont, on le voit dans leur propagande, reconstitué une forme de chambre d'écho qui leur permet donc non plus d'envoyer, comme ça avait été le cas pour le Bataclan, des commandos depuis le Moyen-Orient qui recrutaient localement pour mener leur campagne de mort, mais en fait de valider des allégeances qui leur sont prêtées, et le cas de Vienne est tout à fait éclairant, vu que c'était un jeune Autrichien de 20 ans, d'origine macédonienne, qui avait tenté d'aller en Syrie, qui avait donc à l'évidence noué des contacts avec Daesh et qui a pu disposer de réseaux dans les pays voisins, vu qu'il y a eu des arrestations en Suisse et en Allemagne, que lui-même avait cherché à acquérir des munitions en Slovaquie, hein, même si les services slovaques avaient averti les Autrichiens qui n'y ont pas pris garde, et que donc là on a une séquence qui, du point de vue de Daesh, est tout à fait coordonnée et qui valide malheureusement la revendication de l'organisation djihadiste.
Donc leur présence finalement sur leur terre finalement est moins forte aujourd'hui, mais ils sont plus présents internationalement, pourrait-on dire, et avec une meilleure propagande également, parce qu'on parle de cyber-califat.
Oui, bon, c'est une formule qui a été utilisée. Ce qu'il faut voir, c'est qu'ils ont sur leur messagerie cryptée, bon, ça peut être Telegram ou d'autres, hein, des moyens de communication qui sont relativement performants, et qu'à défaut d'avoir un territoire d'où ils émettent, ils ont des caches dans lesquels ils peuvent continuer d'animer cette propagande en différentes langues, ce qui leur permet d'impressionner. Le fait d'être capable d'agir sur au moins 3 continents, hein, de valider des opérations, qu'elles soient ponctuelles, comme l'attentat de Vienne, qui a quand même fait 4 morts, que ce soit des opérations militaires coordonnées, hein, comme ce qu'ils font sur le continent africain et même au Sahel, où ils avaient tué les 6 humanitaires français au Niger. Cette capacité de rayonnement sur le campus de Kaboul, tout récemment, où ils ont perpétré un véritable massacre, eh bien, il y a une chambre d'écho qui se constitue à l'échelle internationale et qui, effectivement, va aller en grandissant de manière, malheureusement, géométrique. C'est inévitable que ça se passe ainsi, vu qu'ils ont repris les armes, le terrain et les thèmes qui avaient fait leur force quand ils disposaient de ce soi-disant califat.
Un effet boule de neige, finalement, c'est ça que vous voulez dire. Il grossirait de plus en plus, et donc la possibilité à nouveau de mener, selon vous, des offensives majeures, comme ça a été le cas, évidemment, il y a 5 ans avec le 13 novembre et d'autres attaques terroristes menées en Europe, vous le pensez? Parce qu'aujourd'hui, il y a un rapport de l'inspecteur général des forces américaines de la coalition anti-EI qui a été rendu public au début du mois et qui disait clairement la nuisance, le pouvoir de nuisance de l'EI avait été réduit et que justement, ces projets d'attentats qu'on a connus il y a 5 ans n'étaient plus d'actualité, n'étaient plus possibles du côté du groupe État islamique.
Mais là encore, hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit.
Non, je vous pose la question.
Daesh est évidemment beaucoup plus faible qu'en 2015. Mais d'abord, rappelons que les attentats du Bataclan avaient été commandités par une cellule qui a été identifiée, sur laquelle j'attirais l'attention dès cette époque, avec un franco-tunisien à sa tête, qui n'a finalement été éliminé qu'un an plus tard, alors que la ville d'où avaient été planifiés les attentats n'a elle-même été libérée que 2 ans plus tard. Donc tout ce temps qu'on a pris à aller frapper les terroristes à la source, du fait d'un choix de l'état-major américain, d'une guerre somme toute classique, de reconquête territoriale progressive, et bien pendant ce temps-là, eux, ils ont préparé la phase suivante. Et c'est là dans laquelle nous sommes. Alors pour l'Europe, moi j'avais décrit à l'époque une véritable campagne d'Europe où d'une part Daesh considère le continent comme un théâtre intégré, et on l'a vu encore donc avec Vienne et ses connexions en Suisse, en Allemagne, en Slovaquie, donc on voit bien que c'est pas l'espace Schengen, c'est l'Europe. Et en fait cette campagne d'Europe, elle a sévi de 2004, le premier de 2014, excusez-moi, le premier attentat, c'est contre le musée juif de Bruxelles, avec 4 morts tués au fusil d'assaut par un djihadiste français qui revenait de Syrie, et elle s'achève, on peut dire, sur le marché de Noël de Strasbourg en décembre 2018, avec là aussi une attaque aux armes à feu. Après, dans l'intervalle, pendant les 2 ans, on a des attaques à l'arme blanche, qui sont revendiquées ou pas revendiquées, avec des individus isolés, parfois désocialisés, mais qui ont un aspect très frappant et qui culmine évidemment avec la décapitation de Samuel Paty le 16 octobre.
Mais des individus qui ne se revendiquent pas du groupe État islamique. C'est la grande différence avec ce qui se passait il y a 5 ans, quand quasiment automatiquement chaque attaque terroriste en Europe était revendiquée par l'EI.
Oui, parce que très souvent c'était le cas. Et là, ça n'était plus le cas. Donc soit ils revendiquaient de manière opportuniste, mais ils ne l'ont plus fait ces derniers temps. Et effectivement, le choix qu'ils ont fait de cibler Vienne et de bien montrer qu'ils étaient responsables indique, à mon sens, je le crains, et je ne voudrais pas être prophète de malheur, qu'une nouvelle campagne d'Europe qui ne sera pas de la même intensité, parce que on n'a pas les mêmes capacité de projection de djihadistes endurcis à partir du Moyen-Orient, mais qu'une nouvelle campagne d'Europe peut se mettre en place en lien avec le crime organisé qui avait déjà été le principal pourvoyeur de munitions, d'armes de combat, voire d'explosifs pour la campagne d'Europe de 2014 à 2018.
Décryptage sur RFI. Romain Ozoui.
Notre décryptage ce soir consacré au renouveau du groupe État islamique. Nous sommes avec Jean-Pierre Filiu, professeur des universités à Sciences Po Paris. Jean-Pierre Filiu, où se trouve aujourd'hui le terrain de reconstruction de ce groupe État islamique? De nombreux observateurs évoquent l'Afrique. Qu'est-ce que vous en pensez?
C'est plutôt un terrain de projection opportuniste, où on voit que très souvent d'ailleurs, les filiales locales de Daesh, de l'État islamique, et sont en compétition avec d'autres groupes djihadistes, sur fond là aussi de collaboration avec le crime organisé. On a pu parler de narcoterrorisme au Sahel, et on voit que dans la zone sahélienne, le principal ennemis de l'État islamique, eh bien, ce sont les groupes affiliés à Al-Qaïda. Et c'est pour ça que les troupes françaises font très attention quand ils frappent les uns, d'aussi frapper les autres, de ne pas ainsi donner un avantage à un groupe djihadiste sur l'autre. Et puis, on a eu d'autres extensions, donc au Nigeria, à partir de Boko Haram, et donc dans la zone du lac Tchad.
Boko Haram qui a prêté allégeance à l'EI, on le rappelle.
Voilà, mais qui est... Donc maintenant, on a toute une filiale où Daesh essaie d'amalgamer aussi bien Boko Haram que son groupe dit pour le Grand Sahara, donc son groupe pour le Sahel. Et puis, on a eu, à partir du Mozambique et jusque dans la Tanzanie voisine, des massacres. Donc là, on est face à une insurrection de type djihadiste qui, d'ailleurs, a provoqué récemment les plus graves préoccupations de l'ONU et de son secrétaire général.
Jean-Pierre Filiou, je voudrais vous faire écouter un témoignage, celui de l'ancien juge antiterroriste Jean-Louis Bruguière, qui est aujourd'hui président de JLB Consulting. Et il fait un lien, alors c'est un nouvel angle, une nouvelle thématique qu'on va aborder dans ce décryptage, il fait un lien entre le regain d'activité du groupe État islamique dont vous nous parlez depuis le début de cette émission et la période actuelle avec la pandémie de coronavirus. Écoutez Jean-Louis Bruguière.
Il y a les succursales de l'État islamique qui sont très actives, surtout après la défaite et donc de la centrale de Daesh en Syrie et en Irak. Et on a un regain d'activisme qui, du reste, se fait en corrélation avec l'épidémie de Covid. Et j'observe que depuis le mois de mars et février, l'État islamique, dans ses communications récurrentes, incite ses sympathisants et ses soldats du djihad à poursuivre leur action grâce à ce don de Dieu qu'est la pandémie de Covid-19. Donc il faut être extrêmement vigilant.
Jean-Pierre Filiou, la crise sanitaire favorise le regain d'activité du groupe État islamique, selon vous? Et si oui, en quoi? Comment est-ce qu'on peut expliquer ce lien?
Oui, enfin, je crois que c'est un lien, excusez-moi de l'expression, un peu tiré par les cheveux. La première chose qu'il faut faire quand on suit la propagande djihadiste, et j'ai malheureusement le privilège de la suivre souvent dans le texte, c'est de ne surtout pas trop l'accréditer. Il faut pas prendre ce que disent les djihadistes au pied de la lettre, faut essayer d'utiliser ça pour comprendre ce qu'ils ont derrière la tête. Donc de toute façon, on est face à une organisation qui essaie de motiver ses militants. Donc face à quelque chose d'aussi irrésistible que la pandémie, ils vont évidemment dire que c'est une bonne nouvelle. Parce que s'ils disent que c'est une mauvaise nouvelle...
Mais en quoi est-ce qu'ils parviennent à en profiter? De quelle manière? Est-ce que la pandémie de coronavirus favorise le risque d'attente à la menace djihadiste?
Je vous ai dit que c'était tiré par les jeux. Donc je ne veux pas être plus sévère à l'égard de l'intervenant récent.
Parce que le chancelier autrichien, c'est Sébastien Kurz, après l'attentat de Vienne qu'on évoquait, déclaré, beaucoup ont été visés alors qu'elle profitait d'un dernier verre ou d'un dernier dîner avant le reconfinement de l'Autriche pour cause de coronavirus. Voilà pourquoi la question se pose.
Oui, mais personne ne sait à ce jour qui le terroriste de Vienne visait.
Dernière question.
Quelle était la cible ? Personne ne le sait.
Dernière question. Est-ce qu'il faut craindre un renforcement? Vous évoquiez déjà la reconstruction qui est en cours et qui est importante, de l'EI à un renforcement avec la libération annoncée des détenus emprisonnés pour actes de terrorisme.
Mais là encore, il faut faire attention de ne pas tout mélanger. Moi, j'ai dit reconstitution et pas reconstruction. Reconstitution de réseaux transnationaux. Et moi, je voudrais finir sur ce qui, à mon avis, est l'essentiel. Que veulent les djihadistes en Europe? Ils veulent provoquer la guerre civile. Or, depuis 2014, tous leurs attentats n'ont pas réussi, alors que c'était leur objectif stratégique, à entraîner des représailles contre les populations musulmanes en Europe. C'est très important. Et je crois que le vrai message de Vienne, celui qu'on devrait vraiment diffuser partout,
on conclura
c'est qu'on
là-dessus.
A eu un Palestinien et deux Turcs qui ont sauvé un policier autrichien sous les balles d'un djihadiste.
Eh bien, merci Jean-Pierre Filiou, professeur des universités à Sciences Po Paris, spécialiste de djihadisme, animateur du blog, je l'ajoute, Ainsi Proche-Orient, sur le site du quotidien Le Monde. Merci à Éléonore Krenik à la préparation de ce décryptage, Claude Battista à la réalisation. Restez à l'écoute de RFI, le débat du jour, dans une poignée de secondes.